Je donne tout de suite la parole à Dominique Viard. Les familiers du banquet se souviennent de sa brillante intervention de l'an dernier autour de Claude Simon. Merci beaucoup à toi.
Alors, mon propos, lorsque Dominique m'a demandé un sujet que j'étais encore un peu loin de penser à ce que j'allais pouvoir dire ici, je l'ai intitulé « Enjeux et dispositifs des récits contemporains, fiction critique, narration heuristique ». Ça fait très savant tout ça. Je précise quand même qu'il ne s'agit pas du tout de présenter un état de la littérature contemporaine. Sa richesse, sa diversité défie quiconque de le faire. Donc, ce serait trop ambitieux de ma part, surtout dans le temps que nous avons là maintenant. Et puis, de toute façon, lorsqu'on s'y emploie, et je l'ai déjà fait par deux fois, l'année dernière notamment avec une anthologie, c'est toujours un résultat un peu frustrant qu'on aboutit parce que il y a des œuvres qu'on doit laisser de côté faute de place, il y a celles qu'on n'a pas su repérer, celles qu'on n'a pas eu le temps de lire. Bref, donc on est toujours insatisfait de ce genre d'opération. Et je dirais qu'en plus, pour le coup, les choses sont rendues encore plus complexes aujourd'hui à cause de la grande variété. Alors, variété des genres, bien sûr, on ne peut pas parler de tout à la fois, de la poésie, du théâtre, du roman, du récit, etc., des essais, mais aussi à cause de la grande richesse, de la grande liberté, je dirais, que la littérature narrative s'est accordée, a su s'accorder depuis peut-être le début du XXIe siècle, la fin du XXe. Et ça, c'est peut-être l'un des enseignements, justement, que m'a fourni le travail produit pour faire cette anthologie l'année dernière. Il m'a semblé pouvoir repérer deux temps dans l'histoire de la littérature contemporaine. Un premier temps, c'est le temps que j'appellerais originel de cette littérature contemporaine, c'est-à-dire à partir de cette inflexion majeure qui s'est produite à la fin des années 70, début des années 80, lorsque les écrivains s'émancipent de ce qui était devenu peut-être une injonction un peu trop lourde et trop systématique du formalisme théorique, lorsque la littérature était censée, à partir des leçons reçues de la linguistique notamment et du structuralisme, ne plus pouvoir parler que d'elle-même, avec cette fameuse formule de la mise en abîme que vous connaissez très certainement. Et à partir de cette fin des années 70, début des années 80, la littérature redevient transitive. Je joue ici sur une formule qu'avait eue Roland Barthes, qui disait que écrire est un verbe intransitif. On n'écrit pas quelque chose, on écrit. Je pense qu'il avait raison, mais que en même temps, il y a aussi ce souci pour un grand nombre d'écrivains d'écrire aussi quelque chose, d'avoir une visée, un objet, hein, qu'ils visent ou qu'ils cherchent à s'approprier dans leur travail d'écriture, et que les deux ne sont pas incompatibles, que justement ce qui est intéressant, c'est l'articulation entre les deux. Et donc c'est autour de ce tournant des années 70-80 que la littérature redevient transitive, je veux dire par là qu'elle se redonne des objets. Elle reparle de l'homme, de l'homme dans le monde, elle reparle des questions du réel, des questions sociales, elle revisite l'histoire. Et sauf que, et c'est là peut-être le trait identificatoire de la littérature contemporaine, c'est que les écrivains, en renouant avec ces objets à dire, ou qu'ils se proposent de dire, qui furent de fait, au cours des siècles certainement, les objets majeurs de la littérature, eh bien, en se redonnant cet enjeu-là, ils ne renouent pas pour autant avec les formes littéraires avérées au cours de l'histoire littéraire qui ont permis d'aborder ces objets. Et de ce point de vue-là, ils ne renouent pas, par exemple, avec le réalisme tel qu'il s'est installé au XIXe siècle. Ils ne renouent pas avec le roman historique qui a connu ses belles heures aussi dans cette même période. Mais ils cherchent de nouvelles formes, et ils cherchent de nouvelles formes parce que ils héritent à certains égards de ce qu'on a appelé l'ère du soupçon, c'est-à-dire de ce soupçon porté sur les formes traditionnelles, sur les formes académiques de la littérature. Et donc, ils cherchent à produire de nouvelles formes pour se porter eux-mêmes à la hauteur des enjeux qu'ils se donnent. Je pourrais donner quantité d'exemples de cela, mais je me contente ici d'un ou deux. Je pense par exemple à ces deux livres parus en 1982, L'excès l'usine de Leslie Kaplan et Sortie d'usine de François Bon. On ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point le simple fait de mettre usine dans un titre au début des années 80 était presque un scandale pour la pensée esthétique de l'époque, qui pensait au contraire que la littérature ne pouvait pas être une représentation du réel. Ces écrivains-là produisent le réel, ils ne le représentent pas. Et ils le produisent en allant chercher des formes littéraires dans la modernité aussi bien. Il est tout à fait frappant de voir, si vous lisez l'Excel-usine de Leslie Kaplan, qu'il ne s'agit pas d'un roman naturaliste à la Zola, on en est à des lieux, mais que Leslie Kaplan, qui ne construit pas de personnages, qui ne construit pas d'intrigue, qui ne construit pas véritablement de narration dans ce livre, va chercher pour évoquer l'usine des modalités expressives qui lui viennent plutôt de ce qu'on appelait alors la poésie textualiste, celle de Jean d'Ève, celle de Anne-Marie Albiac, celle de Claude Royer-Journoux, ou encore celle de Hoccart, enfin ce qu'on a appelé aussi parfois la poésie grammairienne. Et donc on voit comment des formes modernes, des formes produites par les avant-gardes, servent finalement de boîte à outils, entre guillemets, si vous me permettez, au profit d'autres formes d'enjeux, d'autres formes d'ambitions littéraires. On pourrait dire un peu la même chose à propos de Sortie d'usine de François Bon, qui va chercher des formes du côté de Kafka. Il dit lui-même à la fin de son livre que c'est en lisant Kafka qu'il a trouvé le mode d'approche de cette question de l'usine qui lui importait. Et le même François Bon ira chercher du côté de Faulkner quelque chose comme des modèles de monologue pour ces texte ultérieur, je pense ici à Limite ou à Décorciment. Donc on a, voyez-vous, dans ce moment-là, des écrivains qui s'émancipent des théories et des tabous, mais qui en même temps essayent de transiger avec cette exigence dont ils sont les héritiers. De même, on pourrait évoquer la génération antérieure, celle justement des derniers grands formalistes, je pense ici à Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, Sarraute, Pérec, qui ont été ceux qui ont infléchi aussi le cours même de leurs œuvres, mais qui infléchissent ce cours dans le souci préservé d'une fidélité à eux-mêmes. Lorsque Claude Simon écrit L'Acacia, en fait, il réécrit une partie de La Route des Flandres en défictionnalisant son livre, mais dans une modalité d'approche de cette histoire qui est aussi expérimentale pour lui, qui demeure quand même très proche dans le phrasé, dans l'incertitude du texte, de ce qu'il avait produit dans La Route des Flandres. Si vous lisez Enfance de Nathalie Sarraute, qui paraît aussi au tout début des années 80, et si vous le lisez en regard des tropismes qu'elle avait publié dès 1939, vous verrez dans Enfance la réécriture de textes qui étaient très présents dans les tropismes déjà, de Sénète notamment, et jusqu'à parfois des phrases qui reviennent presque mot pour mot. Et c'est comme un travail de relecture que les écrivains fournissent sur eux-mêmes. Donc ça, c'est en gros le premier temps, si vous voulez, ces deux générations, l'une qui infléchit le cours de ses œuvres, l'autre qui cherche des formes nouvelles pour rejoindre des objets que la littérature avait un peu perdu de vue. En revanche, à partir de la fin du XXe siècle, début de notre XXIe siècle, des écrivains plus jeunes, eux, n'ont pas à fournir ce travail d'émancipation vis-à-vis des théories et des tabous, parce que ces théories n'ont pas pesé aussi fortement sur eux, d'une part, et d'autre part, parce que les écrivains de la génération précédente, les Michon, les Quignard, les François Bon, les Annie Ernaux, et on pourrait multiplier les noms ici, Echnoz, enfin, avec des esthétiques et des pratiques très différentes, ont contribué à les libérer. Et donc, les écrivains plus jeunes, et dans l'anthologie, c'est vraiment ce que j'ai remarqué en constituant la dernière partie de l'anthologie, ont moins de scrupules pour renouer avec le personnage romanesque, avec l'écriture de l'émotion, le pathos, si l'on veut. On pourrait dire qu'ils abordent la forme narrative et ses usages avec une beaucoup plus grande liberté. Et là, on pourrait aussi évoquer une quantité de noms de jeunes écrivains qui produisent des œuvres, je crois, tout à fait forte et importante, et dans des genres très différents. On peut penser à Mélisse de Kerangal, je pense ici à Corniche Kennedy, Naissance d'un pont ou Réparer les vivants. On peut penser à Mathieu Riboulet, qui est publié ici aux éditions Verdier, à Christian Garcin ou à Enzo Cormand qui réinvente le roman épique, par exemple, ou le roman artiste. Et donc, vous voyez qu'il y a voilà, cette grande licence que les écrivains se donnent d'aller revisiter des formes sans sentir peser sur eux les oukases d'une certaine théorie des années 60-70. Il est donc, je crois, tout à fait ambitieux et irréaliste de présenter quelque chose comme un panorama de la littérature actuelle. Et donc, ce que je voudrais faire dans le cours de ce propos, c'est essayer de discerner au sein de cette littérature une tendance qui me semble une tendance insistante, qui dessine des formes tout à fait singulières, tout à fait étonnantes, et qui peut s'inscrire dans ce que j'appelle assez volontiers des fictions critiques, c'est-à-dire des textes qui relèvent de la fiction, en déplaçant d'ailleurs le sens du mot fiction, j'y reviendrai en fin de propos, mais une fiction qui porte un regard critique sur un certain nombre de réalités. Pour situer cela, je dirais que c'est une littérature qui s'envisage comme recherche, et peut-être plus précisément d'ailleurs comme enquête, parce que la recherche peut être aussi une recherche uniquement formelle. C'est Butor qui disait que le roman était une recherche, vous savez. Donc une littérature qui se conçoit comme recherche et comme enquête, et non plus comme représentation ou comme imagination. Et de ce point de vue-là, on voit apparaître un ensemble d'œuvres qui esquisse quelque chose comme une troisième voie, si vous voulez, indépendante de cette traditionnelle dichotomie qu'on oppose souvent entre littérature de représentation d'un côté, hein, le réalisme et tous ses avatars, et littérature d'imagination de l'autre, l'invention, selon toutes les formes qu'elle peut prendre. Alors, cette présence de l'enquête dans la littérature, cette troisième voie, si on essaie d'y réfléchir un peu, on se rend compte qu'elle est finalement déjà là dans un certain nombre de formes apparues au début des années 80, dans ce moment décisif que j'évoquais tout à l'heure, hein, d'inflexion esthétique. Elle est en effet au principe de formes que nous avons, en travaillant les uns et les autres sur ces corpus-là, cru pouvoir dégager. Par exemple, ce que j'ai appelé les récits de filiation. C'est, pour vous donner des idées de ça, c'est La Place d'Annie Ernaux ou Une femme, qu'elle a écrit un peu plus tard. Ce sont Les Chants d'honneur de Rouault, ce sont Les Vies minuscules aussi bien de Pierre Michon, c'est-à-dire ces textes qui produisent une enquête sur l'ascendance biologique, généalogique des écrivains et qui manifestent par là qu'une transmission ne s'est pas faite. Alors parfois elle ne s'est pas faite pour des raisons qui sont liées à l'histoire. Les parents ont disparu, emportés par la guerre et notamment... Il y a là un grand nombre de textes qui sont écrits par ce qu'on peut appeler les enfants de la Shoah, hein, les enfants des parents assassinés par le nazisme. Mais il y a aussi des récits de filiation qui sont liés à des questions de pure problématique sociale, indépendamment de ces problématiques historiques. C'est le cas d'Annie Ernaux, et qui doit... lorsqu'elle a le sentiment d'être passée dans un autre univers social, produire quelque chose comme une enquête pour restituer la figure de son père, puis de sa mère. Une autre forme apparue aussi au tout début des années 80, ou à la toute fin des années 70, c'est la forme des fictions biographiques. On peut penser à Claude-Louis Combet, qui essaye de reconstruire ses figures de chrétienne primitive, à Gérard Massé, je pense à Vie antérieure, par exemple, mais aussi à son travail sur Champollion, dans le dernier des Égyptiens, à Pierre Michon également, avec les vies de peintres que vous connaissez, dans Vie de Joseph Roulin ou dans Maître et serviteur. Et là encore, les textes sont très nombreux, il y a même des collections qui sont ouvertes pour accueillir ce genre de textes. Je pense à la collection L'un et l'autre, aux éditions Gallimard, qui a notamment publié Rimbaud le fils de Michon. Une troisième forme d'enquête, c'est aussi l'enquête sur l'histoire, avec un écrivain comme Didier Deninx, je pense à Meurtre pour mémoire, mais aussi à d'autres textes de Didier Deninx, qui revisite des zones un peu obscures, oubliées ou tues de l'histoire, que ce soit l'histoire des guerres, que ce soit l'histoire coloniale, que ce soit toutes sortes d'aspects historiques qu'on laisse un peu dans l'ombre, du 19e siècle ou du 20e siècle, mais aussi parfois des enquêtes sur des périodes beaucoup plus anciennes. Pensez à l'œuvre d'Alain Nadeau qui produit une enquête sur l'invention du zéro, dans l'archéologie du zéro, une enquête sur les écritures, l'apparition des écritures, la première bibliothèque, enfin ce genre de choses. Et donc toutes ces formes, récits de filiation, fiction biographique, nouvelles écritures de l'histoire qui prennent la forme de ce que je propose d'appeler le roman archéologique, c'est-à-dire que c'est à partir d'ici qu'on enquête sur hier et non pas un roman chronologique de l'histoire, tout repose sur finalement une pratique de l'enquête à l'intérieur de la fiction. Et donc ma question serait de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Et tout de suite, on constate que ces formes que je viens d'évoquer, récits de filiation, fiction biographique, romans archéologiques de l'histoire, n'ont pas cessé de se développer depuis le début des années 80. Chaque rentrée littéraire, chaque année apporte son nouveau contingent d'œuvres que l'on peut situer dans cette filiation-là. Je ne prends que quelques exemples pour vous en donner idée, mais on pourrait citer des dizaines et des dizaines d'œuvres dans chacune de ces rubriques. Du point de vue des récits de filiation, je pense à Atelier 68 de Martine Sonnet qui évoque son père forgeron aux usines Billancourt. Est paru l'année dernière Un bon fils de Pascal Bruckner qui évoque ce père dont l'idéologie est quand même singulièrement suspecte. Ou pour ne pas oublier nos prix Nobel, pensez à L'Africain de Le Clésio qui est aussi une évocation de son père à travers des objets, des photographies. Du côté des fictions biographiques, je voudrais penser à ce qui me paraît une œuvre vraiment tout à fait admirable de Patrick Deville, qui a commencé avec Pura Vida, qui se poursuit cette année avec Viva, qui évoque la vie de Trotsky et celle de Malcolm Lowry, par exemple, après avoir évoqué celle de Yersin dans Peste et choléra. Vient de paraître aussi Le météorologue d'Olivier Rollin sur la figure d'un scientifique russe déporté dans les camps du goulag. À propos de russe, on peut penser aussi à Limonov de Carrère. Enfin, vous voyez que ce genre de forme littéraire continue de se développer avec un grand succès. Et du côté du roman archéologique, où on pourrait inscrire Dora Bruder de Modiano, puisque je parlais de prix Nobel, il y a un phénomène tout à fait singulier, et j'en redirai un mot dans le cours de mon propos qui se produit là depuis l'année dernière, c'est que les historiens eux-mêmes se mettent à emprunter aux écrivains qui l'ont initié cette forme littéraire du roman archéologique. On voit ça dans ce livre de Ivan Jablonka qui s'appelle « L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus », où l'historien produit une enquête sur ses propres grands-parents, ce qui est déjà un peu singulier de la part des historiens. Il le fait en écrivant à la première personne, deuxième singularité, et il le fait, et j'en donnerai quelques exemples, en recourant à des méthodes qui se sont inventées sous la plume des écrivains et qui ne sont pas très orthodoxes aux yeux des historiens. Je pourrais aussi ajouter d'ailleurs que ces formes non seulement continuent de se développer, mais qu'elles ont un succès de plus en plus net aussi auprès du grand public. Elles sont reprises en compte par des écrivains plus académiques, plus traditionnels ou plus grand public. Elles sont même prises en compte aussi par le cinéma. Pensez simplement au succès des biopics, hein, tous ces films biographiques qui apparaissent sur nos écrans. Deuxième constat, non seulement ces formes se perpétuent, se développent, mais elles se diversifient et elles s'intéressent aussi à d'autres objets que les ascendants, les figures attestées de ou l'histoire, mais elles interrogent désormais avec beaucoup d'acuité le présent, le réel, hein, les réalités sociales, si vous voulez, comme elles avaient d'ailleurs commencé de le faire aussi pour tout un ensemble d'œuvres tout à fait identifiables qui s'étaient intéressées aux faits divers. Pensez à L'Adversaire de Emmanuel Carrère ou à celui qui s'appelle justement Un fait divers de François Bon. Alors nombreux sont effectivement aujourd'hui les livres et à certains égards le terme de roman qui perdure pour les désigner n'est peut-être pas le meilleur, il faudrait peut-être plus parler de récits, hein, parce que ces textes n'offrent rien de, qui soit véritablement romanesque, enfin qui relève de la catégorie du romanesque. Donc nombreux sont des livres qui aujourd'hui substituent à une histoire imaginaire une expérience, qui est une expérience d'observation, d'enquête, d'investigation. Et le texte donné à lire, alors, n'est pas le résultat de cette enquête ou de cette observation, mais c'est le mouvement même de l'expérience, le mouvement même de l'enquête, de sa difficulté, de ses errements parfois, de ses recherches, les réflexions qu'elle suscite, hein, et non pas l'histoire que l'on peut produire après avoir accompli l'enquête. Ce sont des œuvres, je disais, on a du mal à les appeler romans parce qu'elles s'installent un peu en dehors, en marge des genres répertoriés. Elles cherchent, je dirais, de nouvelles voies pour faire apparaître les intensités latentes des phénomènes qu'elles abordent. Ambition pour laquelle, finalement, aussi bien le discours de l'essai leur paraît insatisfaisant que la pratique du roman. L'essai, en effet, reconduit des approches qui sont souvent déjà entérinées par ailleurs, mais qui sont surtout exclusivement discursives. Or, ces œuvres font le détour de la fiction, et donc le discours n'est pas leur mode d'être principal. D'autre part, le roman, lui, contribue d'être tributaire de ces esthétiques de la représentation avec lesquelles elles entendent rompre. Et du coup, les écrivains dont je parle inventent ainsi une forme singulière, indécidable, irréductible au roman compris comme genre de la fiction narrative et à l'essai compris comme genre littéraire du discours. Alors vous vous dites, ben oui, mais de quoi est-ce qu'il nous parle là? Donc je vais vous donner une série d'exemples. Ça prend un peu la forme d'un inventaire, ce qui n'est pas très adroit dans une conférence. En général, on nous déconseille fortement de le faire. J'y sacrifie quand même et je voudrais que vous le preniez comme des invitations à la lecture, des suggestions d'achat dans les librairies à côté, pour mesurer justement ce qu'il en est de ces livres. Et en même temps, si je procède à l'inventaire, c'est aussi pour vous faire prendre conscience de leur multiplicité, hein, à la fois de leur quantité, de leur variété, que vous vous rendiez compte qu'il y a là un massif, un ensemble d'œuvres qui contribue à créer quelque chose, à créer un nouvel espace dans la littérature française, au moins. Alors, je les ai classés un peu par rubrique, si l'on veut, avec la prudence qu'il faudrait avoir pour ce classement, parce que il en est de nombreuses de ces œuvres qui pourraient relever de plusieurs de ces rubriques. Mais c'est pour essayer de vous donner un peu une représentation de l'ensemble. Alors d'abord, on rassemblerait tout ce qui relève du recueil de formes de parole. Alors, quel que soit le lieu où sont développées ces formes de parole. Exemple, les paroles développées dans les audiences des étrangers sans papier, des tribunaux, de grande instance. C'est ce que fait Marie Cosnet dans le tribunal de grande instance de Bayonne, en allant écouter ces audiences où on délibère pour savoir si ces étrangers sans papier seront reconduits à la frontière, placés en centre de rétention, etc. Mais ça peut être aussi au sujet de violences historiques, qu'elles soient subies ou perpétrées. Pensez au texte de Jean Hatzfeld, hein, sur une saison de machette sur les marais rwandais, et sur le même Rwanda, d'ailleurs, le travail du Belge Jacques Décuvellerie et de son groupe de théâtre qui faisait venir sur la scène une Rwandaise qui témoignait de son expérience, hein, c'était Yolande Makagasana qui était là et qui, au milieu de ce qui était quand même aussi un agencement de théâtre, venait apporter une parole, finalement presque comme un témoignage sur une scène de tribunal. Et du coup, le lieu même s'en trouvait hésitant entre le tribunal et le théâtre. Pensez aussi aux travaux de Ritipane ou de Patrick Deville sur le Cambodge et sur les Khmers rouges, hein. Mais ces paroles peuvent être aussi recueillies dans des ateliers d'écriture en faveur de populations désocialisées ou de prisonniers. C'est ce que fit François Bon dans Prison, justement, ou dans C'était toute une vie. Ça peut être aussi dans une clinique où l'on traite la maladie d'Alzheimer. C'est ce que fait Olivia Rosenthal, ou encore dans d'anciennes pompes funèbres. Hein, et c'est toujours Olivia Rosenthal dans ce livre qui s'appelle « Viande froide », sous-titré « Reportage ». Elle prétend inventer ici ce qu'elle appelle des architectures en parole ou architectures de parole. On est bien dans ce recueil de la parole. Elle le fait aussi à propos des films qui ont pu marquer des vies, des consciences, des émotions dans ce livre qui s'intitule « Ils ne sont pour rien dans mes larmes ». Vous avez aussi une réflexion sur la parole telle qu'elle circule dans les médias. Je pense aux livre de Patrick Bouvet, Shot ou Direct, ou encore de Marc Weissmann dans ses Notes sur la terreur. Deuxième ensemble, ce serait celui qui est constitué par le parcours d'un territoire social, que ce territoire social soit précisément délimité. Le premier qui a fait ça, c'est sans doute Georges Perec avec la place Saint-Sulpice, mais c'est aussi Jean Rollin qui décide de faire le tour des zones suburbaines de Paris, qu'est-ce qu'il y a derrière le périphérique, et de circuler à pied d'hôtel en hôtel et de noter ce qu'il remarque, une conversation qu'il a, ce qui s'y passe. Il y a un livre très intéressant dans cet esprit-là, c'est le livre de Vasset qui décide de prendre la carte IGN de l'Île-de-France, de voir où il y a des zones blanches. Vous savez, comme les explorateurs autrefois avec la carte de l'Afrique qui n'était pas encore complètement dessinée, et d'aller voir ce qu'il y a dans ces zones blanches. Et dans ces zones blanches, il trouve des friches industrielles, des terrains vagues, des lieux abandonnés qui sont parfois colonisés par des populations plus ou moins interlopes, et il tente d'en rendre compte. À l'intérieur de Paris, cette fois, c'est Thomas Clair qui visite le 10e arrondissement avant de visiter son propre appartement dans un livre paru l'année dernière. Martine Sonnet, que j'évoquais tout à l'heure pour Atelier 68, a produit aussi un livre sur la gare Montparnasse. Marilyn Desbioles s'est intéressée aux habitants d'une cité du sud de la France, vers Marseille, promise à la destruction, dans un livre qui s'intitule « C'est pourtant pas la guerre ». Et c'est à la fois un livre d'entretien, elle recueille la parole des gens, mais elle s'intéresse aussi au lieu. Et je pourrais encore évoquer Bruce Bégou et son intérêt pour les motels, Arnaud Bertina, Éric Chauvier, Didier Deninx, pour aussi les périphéries ouvrières de la région parisienne, ou très récemment, le livre d'Annie Ernaux, « Regarde les lumières, mon amour », qui évoque le supermarché. Des territoires plus amples, cette fois, ce peut être la France tout entière, pour Jean-Christophe Bailly ou pour Michel Chailloux, ou bien des trajets spécifiquement circonscrits, comme François Maspero dans le train de banlieue, Julio Cortazar sur l'autoroute, Marc Auger dans le métro, ou François Bon dans le train de Paris à Nancy, dans Paysage Fer, qui reparaît ces jours-ci. Un troisième ensemble serait constitué par des investigations sur des cas. Qu'il s'agisse de cas qui donnent lieu à des faits divers, j'évoquais tout à l'heure l'adversaire d'Emmanuel Carrère, vous savez, sur ce Jean-Claude Roman qui s'est fait passer pendant 18 ans pour un médecin alors qu'il ne l'était pas, avant de vouloir faire disparaître son mensonge en tuant tous ceux qui l'entouraient, ses parents, ses enfants, sa femme, son chien et lui-même, sauf que lui, il s'est raté. C'est le cas aussi, c'est peut-être moins connu, de Nicole Malinconi qui a enquêté sur... la femme de ce pédophile belge dont vous vous souvenez très, très certainement. Investigation sur des cas encore. C'est un livre très, très surprenant d'Éric Chauvier qui s'appelle « Anthropologie ». Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir ce livre. Éric Chauvier fait une expérience que nous avons tous faite, hélas. Arrêté à un carrefour, une jeune femme vient lui demander un peu d'argent. Et il n'a pas envie de lui en donner. Il fait semblant de ne pas l'avoir. Et puis, un peu travaillé par le scrupule, le remords de cette attitude, il se demande comment réagissent les autres à ce type de circonstances. Et il se débrouille pour repasser en voiture au même feu rouge, avec dans sa voiture différentes personnes qui exercent des populations sociales ou liées à ou des intellectuels qui réfléchissent à des questions sociales de cet ordre-là. Et il observe comment chacun réagit, les propos qu'il tient, les types de discours, ce qui l'affecte de prendre comme attitude, etc. Jusqu'au jour où, repassant encore une fois à ce feu rouge, cette jeune femme ne vient pas lui demander de l'argent. Et d'un seul coup, une sorte de culpabilité saisit le narrateur. Il se demande ce qu'elle est devenue. Il se sent coupable de cette disparition qu'il n'a pas su prévoir, empêcher. Et il se met à faire une enquête pour savoir qui était cette jeune femme et pourquoi elle a disparu, comment est-ce qu'on peut la retrouver. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce travail-là, qui est donc à la fois un dispositif expérimental et puis en même temps une sorte de roman policier, on cherche qui était cette jeune fille, s'appelle Anthropologie. Hein, et je reviendrai dans un instant sur cette porosité entre les sciences humaines et la littérature. On pourrait évoquer encore dans le même esprit l'enquête que fait Virginie Littart sur les enfants d'une génération engagée en 68, ou encore les enquêtes et observations de Jean Rollin auprès des chrétiens de Palestine, les observations des rituels sociaux dans l'enterrement de François Bon, ou bien le rassemblement de portraits individuels de différentes natures sous la plume d'Yves Pagès. Un quatrième ensemble serait la collecte de documents historiques. Là encore, c'est Pérec peut-être qui a donné le modèle de cela dans le travail qu'il fait avec Robert Bobert sur Ellis Island. Mais ces documents historiques servent beaucoup à ces fictions biographiques que j'évoquais tout à l'heure, à ces trajets de vie. Hein. Patrick Deville, je l'ai évoqué pour Yersin, pour Trotsky et pour Malcolm Lowry, mais il le fait aussi à propos des explorateurs en Afrique, Savonien de Brazza, par exemple. Il y a aussi cette ethnologie culturelle à laquelle se livre Gérard Massé ou, à certains égards, Pierre Bergougnoux, à partir des masques Pellier. Et toutes les extrapolations ethnologiques, d'ailleurs, sur lesquelles se livre Bergougnoux à son propre sujet. Vous auriez un cinquième ensemble qui évoque surtout le monde du travail, qu'il s'agisse d'un monde abordé d'un point de vue familial, historique ou sociologique. On peut penser ici à François Bon, bien sûr, que j'évoquais tout à l'heure à ce sujet, mais aussi à Aurélie Filippetti, qui... réfléchit sur le monde des mineurs de l'Est de la France, hein, dernier jour de la classe ouvrière. Martine Sonnet, je l'ai évoqué, mais aussi Jean-Paul Gou, qui était parmi nous l'année dernière, qui a travaillé sur les usines de la région de Montbéliard. Et cette saisie, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle va se modeler parfois sur des paradigmes de type... ethnologique. C'est le cas de la centrale d'Elisabeth Filliol qui évoque ces populations qui sont chargées de nettoyer les centrales nucléaires lorsqu'elles sont à l'arrêt et qui se déplacent d'une centrale à l'autre à travers la France pour le faire, un peu comme les compagnons du Tour de France autrefois, les compagnons du devoir. Et on sent bien que ce modèle ethnographique lui sert de, comment dire, d'instrument d'élucidation de ce qu'elle est en train de décrire. Mais cette enquête sur le monde du travail, j'en reviendrai dans un instant, passe aussi par l'étude des pratiques langagières mises en œuvre dans le monde du travail, quel qu'il soit. C'est le cas de Thierry Bestingel, ou de Jean-Claude Masséra, par exemple. Hein. Et donc là, les modes d'approche sont aussi extrêmement divers. Ça peut être sociolinguistique, ça peut être ethnographique, ça peut être sociologique, ça peut être strictement familial, comme lorsque François Bon évoque dans Mécanique la figure de son père. Voilà donc un ensemble de lectures programmées pour votre hiver. Je voudrais dire que cette diversité de champs et de pratiques permet à la littérature d'avancer ses propres conceptions sur ces objets-là. Elle peut découper son domaine d'investigation comme elle le souhaite, recueillir informations et paroles à sa guise, imaginer ses propres dispositifs, construire les situations de rencontre ou de dialogue dans une plus ou moins grande proximité avec ce qui se fait par ailleurs dans les sciences humaines et sociales, en sociologie, en ethnologie. La question de l'entretien, par exemple, puisque j'ai commencé par cet exemple-là, et de la transcription de l'entretien n'est évidemment pas aussi réglée en littérature qu'elle l'est en sociologie. Pensez à la préface que Pierre Bourdieu donne à La misère du monde, où il explique très précisément quelles sont les modalités qu'il faut mettre en œuvre pour cela. Et donc cette évidente proximité avec les sciences humaines et sociales mérite d'être interrogée, d'autant qu'elle contribue à des effets, je le disais tout à l'heure, de porosité, d'interférence entre les disciplines. On remarque cela de manière très très nette, j'en donne simplement deux séries d'exemples, en sociologie et en histoire. En sociologie, vous avez peut-être vu paraître au mois de janvier de l'année dernière cette entreprise du Parlement des Invisibles lancée par Rosan Vallon et la collection de petits livres qui est associée à cette entreprise, de récits de vie, où l'on voit cohabiter des récits de vie comme celui que j'ai évoqué d'Annie Ernaux tout à l'heure, « Regarde les lumières, mon amour », donc écrit par des écrivains. C'est le cas aussi de Bégodeau ou de Bégou qui publie dans cette même collection, mais aussi d'autres qui sont recueillis auprès de personnes anonymes, les fameux infâmes dont parlait Michel Foucault dans les années 70-74, hein, lorsqu'il envisageait de recueillir des vies des hommes infâmes. Il fallait bien entendre par infâme des gens qui n'avaient pas de femme, c'est-à-dire pas de réputation, fama, hein, qui étaient des inconnus, des anonymes, du même ordre que ceux qui ont intéressé le travail de la micro-histoire née en Italie autour de Giovanni Levi, Carlo Ginzburg, Edoardo Grandi et quelques autres, hein, ce qu'on a appelé la micro-storia, c'est-à-dire cette façon de prendre des anonymes dans l'histoire et d'essayer de reconstituer ce qui pouvait être leur vie. Cette façon de retourner au récit de vie n'est pas sans rapport non plus avec ce que pratiquait l'école de Chicago aux États-Unis au début du XXe siècle. En histoire, ce sont les livres de gens comme Patrick Boucheron, publiés ici chez Verdier, qui essayent de trouver les moyens de dire cette rencontre dont aucun document ne vient attester entre Machiavel et Leonardo da Vinci. C'est aussi le livre de Stéphane Audouin-Rouzeau qui s'intitule « Quelle histoire ?», qui est paru il y a un peu plus d'un an maintenant et qui est sous-titré justement « Un récit de filiation ». C'est-à-dire que Audouin-Rouzeau dit explicitement dans le sous-titre qu'il donne à ce livre qui porte sur son père, sa fille de son père et plus lointainement celle de son grand-père, dit explicitement qu'il a emprunté une forme littéraire. Alors que lui est historien et qu'il avait peut-être les moyens, en historien, d'investiguer cette situation. Et puis j'ai évoqué tout à l'heure le livre d'Ivan Jablonka, hein, l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, et qui lui aussi fait plusieurs fois le détour par les modalités littéraires pour se porter à la rencontre de ces figures absentes. Donc les terrains abordés par les œuvres littéraires que je commente là coïncident bien sûr parfois et souvent même avec ceux qui font par ailleurs l'objet d'enquêtes sociologiques, de l'ethnologie du proche, hein, le monde du travail, la maladie, le fonctionnement de la justice, les marges urbaines, les populations désocialisées, les franges déshéritées du monde, le quotidien, les territoires, hein, et aussi plus ponctuellement peut-être avec l'histoire, l'ethnologie des lointains ou l'enquête en histoire immédiate. Mais ce qui caractérise les œuvres littéraires, c'est qu'elles le font évidemment avec une beaucoup plus grande liberté. Penser, pour avoir un modèle de ça, la grande différence qu'il y a entre les réflexions de Georges Perec sur ce qu'il a appelé lui-même l'infra-ordinaire et puis le type de travail beaucoup plus structuré que produisent des sociologues et philosophes comme Henri Lefebvre ou Michel de Certeau sur cette même question du quotidien. Alors cette nouvelle manière littéraire d'aborder le réel, me dira-t-on, n'est pas si nouvelle que cela. Il y a des antécédents littéraires. Hein, du côté de l'enquête naturaliste, on a publié les carnets de Zola qui allaient faire des enquêtes avant d'écrire ses romans. C'est dans la collection Terre humaine chez Plon. On a connu les écrivains reporters des années 30. On a connu aussi Truman Capote et ce qui s'est appelé aux États-Unis la non-fiction novel. Hein. Mais si ces pratiques d'aujourd'hui recroisent parfois ces antécédents littéraires, elles ne s'y résorbent pas, notamment parce qu'elles mettent en œuvre des dispositifs cognitifs spécifiques, entièrement neufs, hein, si bien qu'elles sont parfois proches, effectivement, du travail de terrain des ethnologues, ce que les ethnologues appellent le fieldwork, hein, de l'enquête sociologique, de la recherche historique, voire du journalisme d'investigation, mais elles s'en distinguent en ce qu'elles sont en même temps résolument littéraires. Non pas au nom d'une forme de supériorité de la littérature vis-à-vis de disciplines qui se sont émancipées d'elles à la fin du XIXe siècle, hein, mais au nom d'une spécificité de saisie littéraire de ces phénomènes qui passe par la dimension subjective de l'approche et puis qui passe surtout par le travail de la phrase, hein, le travail de la phrase, du phrasé de ces textes qui est lui-même souvent en plus l'objet d'une réflexion métalittéraire à l'intérieur du texte, c'est-à-dire que l'écrivain s'interroge sur la phrase qu'il utilise. Les exemples majeurs, on peut les prendre déjà dès le début de cette période de la littérature contemporaine, lorsque Annie Ernaux décide d'utiliser cette phrase tout à fait singulière qu'elle appelle l'écriture neutre, hein, proche d'une forme d'écriture blanche à certains égards, ou lorsque, à la fin des Vies minuscules, Pierre Michon s'interroge sur le style qu'il a employé, qui est peut-être au contraire un style trop élaboré, trop rhétorique. Il y a aussi, de la part de ces écrivains, parce que c'est leur objet, parce que c'est leur outil, hein, une attention très fine aux usages de la langue. Et puis, ce serait un troisième point, de très nombreuses références à toute une bibliothèque littéraire. Et donc, dans ces œuvres-là, cohabitent, en fait, des concepts et des pratiques, des modes de saisie qui sont effectivement issus des sciences humaines et sociales. Annie Ernaux travaille avec la notion d'habitus qui a été popularisée par Pierre Bourdieu. C'est le cas de François Bon aussi à certains égards. Martine Sonnet, que j'évoquais tout à l'heure, travaille avec la notion d'éthos. Hein, son père est un taiseux, comme sont des taiseux la plupart des ouvriers de des années 50 qui ne disaient rien sur leur métier lorsqu'ils rentraient à la maison. Il y avait une séparation radicale entre le métier et la famille. Hein. Et donc, ils font appel, effectivement, ces écrivains, à des connaissances sociologiques, ethnologiques, historiques, géologiques, philosophiques. On pourrait prendre presque comme exemple ici Pierre Bergougnou, qui les rassemble toutes. Hein. Mais ils font aussi, et c'est ça qui est intéressant, cette articulation dans leurs textes, ils font aussi référence à des œuvres littéraires de notre héritage, du patrimoine, si l'on veut. Et ce point est tout à fait essentiel, parce que ces œuvres, par là même, excèdent le souci esthétique et le seul goût pour une forme d'intertextualité. Le recours aux œuvres littéraires qu'elles pratiquent tend à compléter ou se substituer à celui au recours au concept opératoire que j'évoquais à l'instant. C'est ainsi, par exemple, que pour juger ce qui se passe au tribunal de grande instance de Bayonne, Marie Cosnay choisit des passages des tragédies antiques qui lui donnent une lucidité particulière sur les modalités opératoires de la justice française actuelle. Hein. François Bon aussi utilise des références aux tragédiens antiques pour traiter de questions qui sont de notre quotidien le plus banal. On trouve sous la plume de Jean Rollin des références à Homère, à Flaubert ou à Malaparte. Et, hein, pensez dans c'est le cas dans Un chien mort après moi, par exemple. Chez Patrick Deville, on va croiser à la fois Plutarque, qui a donné le modèle des vies parallèles, mais aussi Rimbaud. Il utilise les romans de Conrad et de Malraux pour essayer de comprendre comment ont pu vivre les explorateurs qu'il évoque. Philippe Vasset, que j'évoquais tout à l'heure à propos de son livre blanc, inspecte ces zones non identifiées de la région parisienne à l'aide des textes de Julien Gracq, des textes géographiques de Julien Gracq et parfois à l'aide de ceux de Claude Simon ou de Pérec. Et donc, on voit que la littérature, là, devient le support d'une fonction élucidante dans l'approche du réel. Et ça, évidemment, ce n'est pas du tout le cas dans les sciences humaines et sociales. Finalement, cette confrontation entre ces pratiques littéraires que j'évoque et les réflexions qui sont suscitées en sciences humaines et sociales au sujet du travail de terrain permet d'adresser à l'œuvre littéraire des questions qui reconfigurent aussi bien les problématiques de son rapport au réel que celles du point de vue narratif et de la subjectivité. Finalement, au-delà des procès en subjectivisme dont la littérature s'est trouvé l'objet, on peut considérer que l'écrivain développe une observation participante d'une nouvelle nature, et c'est évidemment là que les choses deviennent extrêmement intéressantes. Je voudrais essayer de le montrer, mais avant d'y venir, je voudrais quand même faire une petite digression pour souligner que plusieurs des auteurs que j'ai mentionnés exercent des professions en sciences humaines et sociales. C'est le cas de Marc Auger, c'est le cas d'Éric Chauvier, c'est le cas de Martine Sonnet, c'est le cas de Bruce Bégout, ou bien mènent de manière parallèle à leur activité d'écrivain des pratiques de journaliste. C'est le cas de Jean Rollin ou de Jean Hatzfeld, ou même de documentariste. J'ai parlé de Virginie Linhart et même d'Emmanuel Carrère, d'ailleurs. Hein. Ce qui contribue, bien sûr, à brouiller les distinctions qu'on peut faire entre toutes ces disciplines et la littérature. Mais du coup, cela rend encore plus nécessaire, je dirais, l'étude pour nous autres universitaires et vous autres étudiants, mais aussi pour les lecteurs qui ne sont pas dans ces domaines-là spécifiques, non pas l'étude, mais l'attention à tous ces procédés littéraires qui sont à l'œuvre dans les textes. Et on peut se demander, d'ailleurs, à certains égards, ce que signifie pour un grand nombre de chercheurs en sciences humaines et sociales d'avoir recours à ces disciplines, ces modalités littéraires. Et donc, c'est ce que je voudrais aborder maintenant pour terminer en évoquant les méthodes et les dispositifs qui sont déployés dans ce genre de texte. Alors, je précise d'abord que c'est justement là que quelque chose aussi d'assez nouveau s'opère. Lorsqu'on réfléchit à la manière, à ce à quoi la littérature a pu servir pour les sciences humaines et sociales, ou pour les disciplines du savoir, avant que les sciences humaines et sociales ne s'appellent ainsi, c'est-à-dire avant la fin du XIXe siècle, on voit qu'en gros, je caricature, je vais très vite, mais c'est pour simplifier un peu la donnée, que la littérature a surtout servi, en gros jusqu'au XVIIIe siècle, d'ornement au discours du savoir. Et c'était finalement un usage rhétorique de la littérature. À partir du XIXe siècle et dans le cours du XXe siècle, l'usage que les sciences humaines et sociales font de la littérature est d'un autre ordre. Il s'agit, et c'est très très net par exemple pour les historiens, d'interroger les modalités d'agencement narratif du récit. Comment est-ce que l'historien va produire son récit? Et pour produire son récit, il a recours aux réflexions narratologiques, si l'on veut, qui sont issues de la littérature. Aujourd'hui, il me semble que ce rapport littérature-sciences humaines se joue sur un tout autre plan, qui est justement celui des dispositifs expérimentaux et des méthodes heuristiques. Alors, je commence par les méthodes. J'en évoquerai quelques-unes. Je crois que mon inventaire n'est pas complet. Mais c'est pour vous donner un peu idée de ce que j'entends par là. D'abord, un premier point, c'est que les œuvres littéraires contemporaines ont ceci de très particulier, qu'elles produisent une énonciation explicite de leurs hypothèses. Elles ne prétendent pas apporter un savoir d'autorité, un savoir constitué, un savoir circonscrit, mais elles font la part de l'ignorance. C'est déjà Claude Simon qui disait que, contrairement au roman du XIXe siècle, le roman du XXe siècle était un roman du non-savoir. Eh bien, ce non-savoir est présent dans le texte, il est présent comme tel dans le texte. Et on voit aussi bien, penser au début de Rimbaud le fils, Michon émet des hypothèses sur Rimbaud, ça commence par deux pages, que si j'avais eu le temps, je vous aurais faire entendre en les lisant, et ça se termine par « on n'en sait rien ». Eh bien voilà, le livre nous dit qu'il ne sait pas, et il l'avoue, il ne cherche pas à dissimuler cette ignorance sous un pseudo-savoir. C'est aussi le cas dans l'adversaire de Carrère que j'évoquais tout à l'heure. Deuxième méthode, c'est le recours aux documents. Il y a une insertion dans l'œuvre littéraire de toutes sortes de documents, de recours aux archives, aux lettres, aux photographies. Pensez à l'œuvre de Sebald en Allemagne ou encore à celle d'Éric Vuillard qui est présent, qui sera bientôt présent parmi nous et qui pratique aussi cela. Et ça donne lieu à toute une littérature documentaire sur laquelle justement Olivia Rosenthal a eu l'occasion de réfléchir assez abondamment. Une troisième pratique, c'est le recours aux approximations. Par approximation, j'entends l'idée d'approche de l'objet. Alors, on est face à un objet insaisissable, par exemple le récit absent d'une personne qu'on évoque, comme ses grands-parents disparus dans les chambres à gaz. Comment restituer leur histoire? Eh bien, on va faire appel à des textes qui témoignent du même genre d'expérience, et on va considérer que ces autres textes valent pour le récit absent, qu'ils en tiennent lieu. Et ça, c'est tout à fait frappant, y compris dans le livre d'Yvan Jablonka que j'évoquais tout à l'heure. Une quatrième méthode, une quatrième stratégie, c'est ce que j'appelle la superposition. Je pense ici, par exemple, et je crois que c'est un exemple très connu par vous tous, au parcours parisien de Patrick Modiano qui superpose son propre présent au lieu traversé par Dora Bruder. J'ai joué dans le même square quand j'étais enfant, j'ai habité sur le même boulevard, etc. Et donc cette référence, voyez, à une expérience personnelle permet d'instruire de l'intérieur une expérience autre que forcément on ne peut pas connaître autrement. C'est du reste l'un des traits majeurs d'un grand nombre de récits de filiation ou de fiction biographique que de procéder ainsi. Et cela va parfois par assez loin. La superposition n'emprunte pas forcément uniquement à l'expérience même de l'écrivain. Elle peut aller chercher ses références ailleurs. Vous en connaissez, j'imagine, un exemple parmi les plus célèbres ou les premiers. C'est celui de Pierre Michon dans Vie minuscule que j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'il cherche à donner à voir le départ de son personnage André Dufourneau, une scène dont plus personne ne peut témoigner au moment où il écrit, eh bien, il se la figure, c'est le terme, hein, à l'aide d'un tableau de Greuze. Je cite, « J'imagine une composition dans la manière de Greuze, quelques départs de l'enfant avide, nouant son drame dans la grande cuisine paysanne que la fumée boucane comme un jus d'atelier. » Et on pourrait presque commenter cette phrase, si on en avait le temps, en voyant sa chute. Le jus d'atelier, c'est le terme pictural. C'est-à-dire que non seulement le tableau s'est substitué à la scène absente, mais le texte se met à commenter le tableau plus qu'il ne commente la scène absente. Une cinquième méthode, c'est celle de la prétérition. Pour le coup, ça, c'est une grande figure littéraire, vous le savez bien. Et je fais exprès d'aller choisir mon exemple ici, dans ce texte d'Yvan Jablonka, dont j'ai dit déjà un mot tout à l'heure, parce qu'il me paraît tout à fait remarquable que la prétérition s'introduise ici dans un livre qui est quand même un livre d'histoire, et qui d'ailleurs a reçu des prix de la part des historiens. Il s'agit donc d'évoquer là le départ du grand-père de l'historien Jablonka, qui s'appelle Matès, et qui a dû fuir la Pologne parce qu'il était poursuivi à la fois pour ses opinions communistes et puis surtout parce qu'il était juif et que commençaient à se répandre les exactions contre les juifs. Et Jablonka n'a réussi à trouver aucun document sur la manière dont son grand-père est passé de Pologne jusqu'en France. Et voici comment le texte s'écrit à ce moment-là, je cite. « J'ignore quel tortillard bondé, quel express Matès attrape ensuite, quelle gare déserte ou pleine de paysans il traverse, quels inconnus il croise, au cours de quelles tribulations. Je ne sais rien des ruelles où il se faufile la nuit, aux aguets, dans son costume fripé. J'ignore, je ne sais rien, mais en même temps, toute une figuration a été donnée par le texte, et nous autres lecteurs, nous le voyons, ce Matès, en train de courir après un train, de sauter dedans, d'errer dans des gares désertes, de se faufiler la nuit dans les ruelles. C'est-à-dire que le travail de la prétérition permet de dire quelque chose quand on ne sait rien, tout en disant qu'on ne sait rien. C'est quand même éminemment littéraire et pas très historien. Mais ça a eu lieu dans le texte, et du coup, le texte est nourri de l'intérieur par cette pratique. L'ignorance, ici, on l'entend, ne se traduit plus par une absence. Elle n'est plus contrainte au silence, comme dans ce livre que vous connaissez peut-être de Gérard Bachmann, qui s'appelle « L'interdit », un livre qui porte aussi sur la Shoah, et qui est un livre constitué de pages blanches, avec simplement des notes en bas de page qui désignent l'absence du texte premier, qui nous disent qu'il n'y a rien à lire. Là, au contraire, Bachmann était plutôt dans une lignée qui serait celle de Blanchot, enfin d'Adorno à la limite, vous voyez, de ce silence qu'impose la Shoah à la littérature. Là, au contraire, nous avons des images, nous avons des figurations possibles, mais avec le scrupule de dire qu'on ignore et qu'on ne sait pas. Et Jablonka dit « ce n'est qu'une conjecture dans mon cerveau », mais néanmoins, le texte a eu lieu. Il a permis de donner une figure à l'insavoir. Autre trait caractéristique, c'est la visibilité du narrateur. Non seulement celui-ci s'énonce à la première personne, il se met en scène dans son présent, dans son enquête, dans ses errements, il fait l'effort de se préserver, de recourir à la fictionnalisation romanesque, et il le dit quand il est tenté par elle. Je reprends un passage du même Jablonka. « Mais peut-être suis-je trop obsédé par les chasses à l'homme de l'hiver 1943, les aboiements des bergers allemands, la panique, les bunkers dynamités, les cadavres au détour du chemin. » Ça, c'est quoi ? C'est toute la filmographie de la Seconde Guerre mondiale qui nous l'a apporté et qui, d'un seul coup, vient comme en parasite s'installer dans le travail même de l'écrivain, dont on requiert habituellement plutôt une neutralité, une méfiance vis-à-vis de ces parasitages-là. Cette présence du narrateur se marque par toutes sortes de figures qu'on appelle dans notre jargon narratologique des métalepses, c'est-à-dire ces figures où d'un seul coup le narrateur fait une intrusion inattendue dans son récit pour nous en montrer les coulisses, les ficelles, pour que nous ne soyons pas dupes de ce que nous lisons. Et le même Jablonka, par exemple, parle de cette fois sa grand-mère, et c'est au moment où un instant de bonheur, d'éclaircie se manifeste dans sa vie, il écrit, elle s'appelle Idesa. Idesa rêve, Idesa sourit. Évidemment, il n'en sait rien. Et donc, il écrit très précisément, Idesa rêve, Idesa sourit, je la fais sourire. Et en disant cela, évidemment, il fait irruption dans son propre texte, il nous détourne de cette crédulité qui pourrait être la nôtre en lisant son passage, mais en même temps, nous avons vu Idesa rire, sourire et rêver. Cette formule-là est bien la formule d'un écrivain qui est très conscient de son geste et de la liberté qu'il se donne, et elle vient encore directement de Pierre Michon, qui l'utilise dans Les Vies minuscules ou dans Vie de Joseph Roulin, où d'un seul coup Michon dit « C'est un homme de peu de profit pour parler de peinture, il me convient ». Voilà. Donc l'écrivain installe une sorte de dialogue direct avec son lecteur par-dessus l'œuvre qu'il propose. Cette réflexion, qui est donc une réflexion d'ordre méta-littéraire, nous la trouvons très souvent dans les textes des écrivains que j'évoque. En voici un passage dans « Viande froide » de Rosenthal, c'est pour préparer à sa venue. « La périphrase est un moyen comme un autre d'échapper momentanément à une pensée qui, au moindre accès de faiblesse, atteindra l'endroit précis où ça fait mal. » Et voyez une façon de commenter la figure de style qu'elle vient d'évoquer, qui était « Aux pompes funèbres, on ne dit pas cercueil, on dit boîte, on dit mettre en boîte, on ne dit pas tombe, on dit trou, on dit mettre au trou. » Donc nous avons effectivement cette pratique-là qui me semble tout à fait particulière, et je donnerai une dernière méthode qui est aussi très insistante chez les écrivains, c'est l'attention portée au phénomène de langage en usage dans le corps social, aux évolutions de la langue, à l'apparition de nouveaux termes, au dévoiement des anciens, et plusieurs d'entre eux, Marie Cosnet, Éric Hazan, Éric Chauvier, Thierry Benstingel, se rendent très très attentifs à cela. C'est le cas aussi d'Olivia Rosenthal, je ne vais pas la laisser tomber comme ça, Olivia. Dans ce même livre, je lis, par exemple, qu'est-ce que c'est là ? Oui. Le commun des mortels n'a besoin d'aucun lexique pour se promener sur un chantier. Le commun des mortels ne connaît pas les termes techniques que les employés du bâtiment utilisent. Le commun des mortels se satisfait de ce qu'il voit et préfère même parfois ne pas comprendre l'usage de telle ou telle machine. C'est tellement plus poétique. Le commun des mortels pense que la poésie, la connaissance ne font pas bon ménage, surtout lorsqu'il s'agit de la connaissance travaux publics. Le commun des mortels oublie le bruit, le froid, la dureté du milieu au profit de la méditation artistique. Bon, voilà un exemple qu'il faudrait lire en regard des termes techniques qui sont mis en usage dans ce livre. Et souvent, les écrivains vont même jusqu'à prendre comme modèle d'interrogation du langage que nous impose un certain nombre d'institutions aujourd'hui l'exemple du philologue Victor Klemperer dans LTI, la langue du Troisième Reich, où ce philologue voyait certains mots devenir illicite à l'époque de la montée du nazisme, d'autres apparaître pour désigner les choses. Et on sait bien que quand on nomme autrement le monde, eh bien forcément on produit une autre conscience du monde et peut-être même une autre idéologie. Je lis un passage là de un roman de Thierry Benstingel, un récit de Thierry Benstingel qui s'appelle justement « Retour aux mots sauvages » pour vous faire entendre cette attention au langage. « Retour brutal aux mots sauvages, se défenestrer, le verbe. » Ah oui, peut-être j'aurais dû vous préciser qu'il s'agissait d'un texte qui a été inspiré par les suicides à France Télécom, où travaille d'ailleurs Thierry Benstingel. « Retour brutal aux mots sauvages, se défenestrer, le verbe, l'action, l'infinitif, le définitif, le mélange d'une terrible grammaire. D'abord l'élan du pronom avant le verbe, pronom réfléchi, réflexif, adressé à soi-même, se mordant la queue, puis réfléchi au sens de prudent, circonspect, pensé, imaginé, ordinaire, déductible, rapidement devancé, doublé, débordé, devenu extraordinaire. Enfin, réfléchi comme son propre visage reflété dans une vitre, qu'on reconnaît à peine tant la douleur le déforme. Comment en est-on arrivé là ? Vouloir traverser le miroir, transgresser, sauter, bondir, passer, dépasser, outrepasser, trépasser. escalader, monter, grimper, enjamber, basculer, sauter, descendre. Et les mains, tourner la poignée, manœuvrer la crémone, ouvrir les deux battants ou basculer le châssis en rotation sur pivot, grande moitié basse vers l'extérieur, petite moitié haute vers l'intérieur, tellement de styles de fenêtres et le vocabulaire précis, voir les charnières métalliques sur le bâti dormant, remarquer le couvre-joint, le double vitrage, apercevoir une trace de peinture sur le bois, constater le lisse soyeux du PVC, dernière pensée, dernière constatation matérielle, à peine une seconde, puis l'envol. D'autres lois physiques, la claque de l'air, la pesanteur, l'accélération. Derrière, les cris, la vague agitation, un hurlement que le souffle du vent atténue. Enfin, le silence. Se défenestrer devant ses collègues. Pronom irréfléchi, pronom annihilé pour qui les mots ont disparu, reste le devant les collègues, marqué à tout jamais, devant. Comment vivre à nouveau ensemble ? Celui qui a vu hurler son voisin de bureau, celle qui a vu son responsable se précipiter trop tard et sa main qui se referme, crispée sur le vide. Après, les mots n'ont plus d'importance, aucune importance. Le directeur qui parle de suicide et qui affirme que ce n'est pas pire qu'ailleurs. Le ministre qui suppute que le climat social en est finalement apaisé. Mensonge en songe ou vérité hantée par ce qui se dit, s'échange, s'accélère, forme une actualité reprise, ressassée, journaliste, spécialiste, personne autorisée, psychologue, sociologue, homme de la rue, ménagère de moins de 50 ans, minorité exclue, majorité incluse, citadin avisé, provinciaux égarés, Pékin moyen, la boule des mots s'agglomère, enf, grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, phrase éclatée, assassine, disséquée, reprise, comparée, on lit des commentaires idiots, des opinions tranchées, on rit parfois pour conjurer sa peur. Je vous rappelle que le président directeur général de cette société parlait de la mode des suicides. Un mot maintenant sur les dispositifs, et je termine par là. Bon, là, cela va finalement de la simple observation, de prise de notes. Je pense à l'exemple que je donnais de Marie Cosnet au tribunal de grande instance, à ce que l'on s'impose à soi-même lorsque Jean Rollin décide de faire le tour de Paris de l'autre côté du périphérique, à pied et en changeant d'hôtel à chaque jour dans ce livre qui s'appelle « Zone ». C'est aussi ces visites systématiques de lieux qui ne sont pas identifiés que j'évoquais avec Philippe Vasset dans un livre blanc, ou bien ces conférences happening que donne Jean-Yves Jouannet dans son encyclopédie des guerres. C'est ce dispositif que j'ai évoqué d'Éric Chauvier dans Anthropologie, ou bien ce travail de recueil et de composition des architectures de parole que fait Olivia Rosenthal. Et à propos de dispositif, vous avez dans le programme même pour aujourd'hui un extrait de son dernier livre où elle parle de stratagèmes. Ces dispositifs sont parfois très proches de ceux qui sont déployés aussi dans le domaine plastique. On peut penser à ce que fait Sophie Kahl lorsqu'elle se fait suivre par un détective qui prend des photos et elle a finalement accès ainsi à sa vie objectivée de l'extérieur. Ou lorsqu'elle s'impose au contraire de suivre quelqu'un. Lorsqu'elle fait des itinéraires et qu'elle se met dans un certain nombre de situations pour créer une expérience, pour avoir l'expérience d'expérience qu'elle n'a pas finalement. Cela vient d'une pratique des arts plastiques qui a été, je pense, inaugurée par Joseph Beuys en 1974 dans cette entreprise intitulée « I like America, an American likes me », où Beuys, invité à faire une exposition aux États-Unis, est arrivé en avion, a demandé qu'on l'emmène directement dans une cage où il s'est enfermé avec un coyote. Et il est resté avec cette cage dans ce coyote un certain temps, se faisant livrer la presse économique américaine, sur laquelle d'ailleurs le coyote se soulageait. Et puis ensuite, il est sorti de la cage, il est reparti en Europe, il n'a pas dit un mot. Bon, c'est typiquement un happening d'art plastique, mais finalement, ce n'est pas si loin de ces dispositifs que les écrivains inventent à leur tour, sauf que eux en disent plusieurs mots. C'est dire donc que la question de la forme est aussi essentielle à ses œuvres, mais que c'est une forme à chaque fois qui a une visée, qui a un enjeu et qui n'est pas une forme travaillée par elle-même. Une exigence donc qui joint le scrupule, je dirais, éthique au sens esthétique. On pourrait parler à cet égard d'une morale de la forme en reprenant la formule qui avait été avancée par Barthes. Et du coup, se pose aussi la question, puisqu'il s'agit ici de morale et d'éthique, de savoir comment se règlent en littérature toutes les questions que pose ce genre d'ouvrage, c'est-à-dire les questions d'autorité, de loyauté, de légitimité, de responsabilité, notamment envers les personnes introduites dans les livres. La chose n'est pas simple. Je rappelle ici les procès que François Bon a dû subir de la part des détenus qui s'étaient reconnus dans son livre « Prison », ou bien de l'interdiction que Michel Martin avait donnée à Nicole Malinconi de publier leur entretien, et interdiction que Nicole Malinconi n'a pas respectée. On touche là à des questions de réception qui, à leur tour, en ouvrent d'autres. Quel est le statut des savoirs ainsi littérairement produits ? Quelle est leur validité aux yeux des chercheurs en sciences humaines? Quelle est leur réception dans le corps social? La diffusion dont bénéficie le texte littéraire, qui est parfois plus large que celle des travaux scientifiques, et qui est en tout cas différente, qui atteint d'autres publics, est-elle favorable à la prise en considération des situations évoquées? Ou bien le fait même que ces littératures, qu'on pourrait dire de terrain, apparaissent au rayon littérature, parfois même au rayon roman des bibliothèques et des librairies, se retournent-ils contre elles, assimilant leur lecture à un simple divertissement sans conséquence? Finalement, on peut dire que ce type d'entreprise repose des questions d'ordre politique. On peut se demander si ces œuvres s'en tiennent à un constat clinique par rapport aux objets qu'elles identifient, et qu'elle laisse au lecteur le soin de tirer ses propres leçons, ou bien que parfois elle transforme leur entreprise en véritable geste critique. Hein. Finalement, c'est ici la question de l'impact sur le corps social qui se pose en effet, et c'est vrai que je crois qu'on touche là à une véritable question politique, à une autre manière d'envisager la question politique dans le champ littéraire, non plus sous les modalités de l'engagement, comme ce fut le cas autrefois, mais sous des modalités complètement inédites. Alors, quel est leur impact politique ? Eh bien, je vous laisse le soin d'en juger à votre tour en allant les lire. Merci.